Mémoire vive,
présentée par Ève Cheftel,
préparée par Rachel Rimer. Une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Le Musée d'art et d'histoire du judaïsme propose jusqu'au 21 février une exposition iconoclaste avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. En effet, le mage, comme on l'appelle, met à l'affiche et à l'honneur Moïse. Oui, Moïse en personne, celui précisément qui posa l'interdit de représentation de Dieu et d'adoration des images. En réalité, l'exposition explore, comme l'indique son sous-titre « Moïse, figure au pluriel d'un prophète », l'abondante iconographie dont Moïse a fait l'objet et ce dès l'Antiquité, les multiples figures que l'homme Moïse a revêtues selon les époques, en fonction des enjeux propres à ces époques, ou comment la figure de Moïse a été utilisée, on dirait aujourd'hui récupérée, par les chrétiens, les protestants, par les juifs eux-mêmes, et au sein des juifs, par les sionistes, et encore dans un passé plus récent, par les Noirs américains. Bonjour Sonia Fellous.
Bonjour.
Vous avez été la conseillère scientifique de l'exposition, en votre qualité d'historienne, spécialisée dans l'histoire de l'art juif, et plus particulièrement en iconographie biblique, antique et médiévale. Vous compléterez si besoin vos spécialisations. Je rappelle que vous êtes notamment l'auteur de l'histoire de la Bible de Moïse à Ragel, qui a reçu le prix Alberto Benveniste en 2004. Ma première question sera tout simplement, pourquoi une exposition sur Moïse maintenant? Est-ce que c'est un projet qui était depuis longtemps dans les cartons? Qu'est-ce qu'il a
En effet, le projet
motivé.
Est dans les cartons depuis quelques années, 3 ans. Il nous a été apporté par 2 doctorants en histoire de l'art, Mathieu Saumon et Mathieu L'Église, qui avaient centré leur recherche autour du Moïse de la Réforme. Comment Moïse s'est imposé comme une figure de libération des Huguenots, qui étaient sous le joug des catholiques, qui étaient persécutés à ce moment-là. Ils avaient développé leur projet, en fait, autour de ces images-là, du Moïse politique, en quelque sorte, la figure du libérateur et l'homme politique, qui faisait émerger l'histoire des protestants comme celle des Hébreux tentant de se défaire du joug de Pharaon.
Et c'est abordé dans l'exposition d'ailleurs, hein, c'est
absolument
un des points de l'exposition.
Et donc c'est à partir de ce noyau, cette idée-là, que nous avons travaillé à l'adaptation de ce projet pour le mage. C'est-à-dire, c'était un pari, une gageure, parce que Moïse, comme il est fort bien expliqué dans l'argumentaire, a fait l'objet d'une iconographie absolument énorme depuis l'Antiquité. C'est la première figure qui émerge dans l'Antiquité, la première figure biblique, hein, j'entends. Et c'était vraiment un défi. C'est peut-être la raison pour laquelle nul n'a tenté une exposition sur Moïse. Alors c'est un défi que nous avons relevé, mais il y avait des contraintes, évidemment. L'espace du musée d'une part. D'autre part, la capacité de perception du public dans un espace étroit d'un sujet aussi large. Et donc nous avons sciemment décidé, au bout d'un moment, je dois dire, puisque le projet était de montrer Moïse dans les 3 religions, mais nous avons décidé assez rapidement, au bout de 6 mois, je crois, de réflexion, en tentant dans tous les sens de placer le sujet, de parler de Moïse dans l'Occident chrétien. Mais le colloque qui aura lieu du 2 au 5 décembre 2015, donc dans très peu de temps, va traiter, lui, au contraire, de la figure de... Enfin, au contraire, ou en tout cas pour compléter, disons, de la figure de Moïse dans les 3 monothéismes. Mais c'était très compliqué, vous savez que l'espace du mage est très étroit. Et chaque fois qu'il y a une exposition temporaire, il faut jongler avec l'espace de l'exposition permanente. Et on s'est dit que le sujet était déjà extrêmement dense.
C'est vrai.
Et pour montrer ce que nous voulions faire, en fait, c'était proposer une vision comparatiste. Et c'est là que je suis intervenue, puisque ma spécialité, c'est l'étude des religions. En fait, je suis docteur en sciences religieuses. Mais le comparatisme religion, c'est plutôt mon domaine. Et adapté, évidemment, en particulier dans l'iconographie. Et donc, c'est là-dessus que nous avons axé un peu notre présentation. Nous avons voulu montrer les différentes figures de Moïse, telles qu'elles ont été, comme vous avez fort bien dit, récupérées, pour employer un langage actuel, mais adaptées en fonction des enjeux idéologiques qu'elles voulaient véhiculer. C'est-à-dire donc en fonction du temps et des sociétés qui les portaient.
D'accord. Alors, l'exposition s'ouvre par le fac-similé d'un... tesson, un tesson de poterie. J'aimerais qu'on Alors, vous en parliez, parce que c'était extraordinaire ce...
Oui, c'est une découverte tout à fait récente, je dois dire. On aurait bien voulu avoir l'original, mais nous n'avons que la réplique et dans le feuilletage, en vérité. En fait, il s'agit de la salle introductive. Alors, nous avons évidemment voulu montrer les origines de l'iconographie de Moïse. Et jusqu'à très récemment, alors attendez, comment vous dire, même jusqu'au 19e siècle, en fait, les premières images du judaïsme naissaient en monde chrétien au 13e siècle. Donc, il était communément admis que les juifs ne faisaient pas d'images. À cause de l'interdit justement promulgué par Moïse. Et donc il n'y avait pas d'art juif et que l'art juif était une copie de l'art chrétien adaptée aux besoins des juifs du moment. En vérité, en 1932, on a découvert tout à fait par hasard une équipe de fouilles franco-américaines, il me semble, les restes d'une synagogue enterrée sous le sable. Sur un plateau élevé à 40 mètres de hauteur au-dessus de l'Euphrate, en Syrie, au fin fond de la Syrie, presque près de l'Irak. Et dans cette ville, qui était une ville extrêmement cosmopolite, parce qu'une ville qui surveillait le passage des caravanes, il y avait un très grand nombre de lieux de culte païens, et c'est pourquoi la fouille avait été dépêchée sur place. Et c'est là que, à la surprise parfaitement générale et la stupeur même des archéologues, si on lit bien les rapports de fouille, on a découvert une synagogue entièrement recouverte de peintures murales sur tous les murs de sa salle de prière, sur 7 mètres de hauteur et 3 niveaux de lecture. En fait, il y a 3 rangées de peintures qui convergent vers la niche centrale qui représente le sacrifice d'Isaac et la façade du temple. Et dans cette synagogue-là qui date, en plus on a retrouvé même la dédicace puisque les carreaux du plafond étaient sur le sol. Je ne rentrerai pas dans le détail de la préservation de la synagogue, mais... tout à fait extraordinaire. Donc, elle est datée de 245-246. Ça veut donc dire qu'elle date du milieu du 3e siècle de notre ère. Eh bien, sur le mur central, le mur le plus important de la synagogue, le mur ouest dirigé vers Jérusalem, il y a 7 peintures murales majeures, frontales, qui présentent un Moïse tout à fait à l'image d'un héros, d'un libérateur, voire même d'une figure messianique. Et en étudiant les images, on s'est rendu compte que non seulement ces peintures véhiculaient le texte biblique, mais aussi les sources rabbiniques, et en plus, les textes de la philosophie juive contemporaine qui étaient très très à la mode, et très lus semble-t-il, puisque nous sommes aux confins de l'Irak et que ces textes ont été écrits en Alexandrie. Je parle des textes du philosophe Philon d'Alexandrie et de l'historien Flavius Joseph, hein, qui était, contrairement aux juifs du Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle, pratiquement jusqu'à la découverte des restes du temple à Jérusalem, le philosophe Flavius Joseph, qui était totalement inconnu des juifs, méprisé, récrié par les juifs, puisqu'il passait pour un traître et un collaborateur. Mais au contraire, Flavius Joseph a été sauvé, j'ai envie de dire, par les chrétiens, puisque lui-même témoignait de la présence, de l'action du Christ, peut-être, et de ses disciples en Judée. Donc bref, en tout cas, Dora Oropos porte les premières images de Moïse.
Donc la Torah n'est pas la seule source, hein, ce que vous dites.
Absolument pas. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte, en tout cas qu'au IIIe siècle, la Bible était déjà véhiculée avec tout son commentaire, alors que celui-ci n'est peut-être pas encore écrit, puisqu'on commence à peine à rédiger le Talmud. Donc c'est vraiment une découverte absolument extraordinaire.
Et ça, on peut le constater par des épisodes qui ne figurent pas dans la Bible, c'est ça?
Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous lisez une image, ben, par exemple, vous allez voir un sacrifice d'Isaac avec derrière une petite tente où apparaît un personnage, et ben, on saura que c'est les Pirkei de Rabbi Eliezer qui racontent que Sarah avait été emmenée par le démon sur une montagne surélevée parce qu'elle croyait que Abraham allait juste offrir un sacrifice à Dieu, et en fait, elle voit qu'il sacrifie son fils, et elle en meurt. C'est comme ça qu'on explique la mort de Sarah dans la Bible. Enfin bref. En tout cas, tout ceci, vous ne le voyez pas vraiment, puisque... la synagogue de Dora Oropos est conservée au musée de Damas, que le site se situe pas très loin de Palmyre, et donc j'ai trouvé, pour ma part en tout cas, qu'il était fondamental qu'elle apparaisse ici, parce qu'on ne sait pas ce qu'il va devenir de ces lieux, vu le contexte actuel. Et donc on a fait reproduire tout le mur ouest de la synagogue dans la face, dans la salle introductive, pour expliquer déjà les origines. Et puis subitement, il y a 2 ans ou 3 ans, eh bien, Hélène Cuvigny, une papyrologue qui travaille à l'Institut de recherche et d'histoire des textes, qui est donc ma collègue, a identifié dans un tesson, un ostracon, on appelle ça, un tesson de poterie qui était dans une poubelle, en fait une poubelle d'une carrière en Égypte, en plein désert à Umbalad, un petit tesson illustré qu'elle a identifié comme étant en fait Moïse face aux deux premiers prodiges qui se produisent au Buisson Ardent. Vous savez, quand Dieu lui demande d'aller libérer son peuple et qu'il s'inquiète, comme tous les prophètes d'Israël d'ailleurs, de cette mission qu'on lui accorde, et demande, mais comment on va le croire lui? Enfin, comment Pharaon va-t-il lui accorder cette faveur? Et donc Dieu lui dit, ben, transforme son bâton en serpent et sa main saine en main lépreuse puis en main saine à nouveau, et c'est exactement ce que le tesson reproduit. Alors on aurait évidemment voulu avoir le tesson, parce que le tesson date des environs de 100 en
donc
fait.
Donc il est plus ancien que les fraises de la synagogue.
Ah oui, il est carrément deux siècles antérieur à la synagogue, donc c'est la première image.
D'accord.
D'abord
connue à ce jour.
Biblique, connue à ce jour, preuve en est, puisqu'il y a deux ans, c'était dehors à Roupos, ça va vite. Et on est toujours... on fouille encore cette région qui est très très riche, comme vous devez savoir. Mais là, malheureusement, je crains qu'il y ait une partie de la région qui sera plus accessible. Enfin, en tout cas, le tesson n'était pas... On ne pouvait pas la porter à Paris, parce qu'il fallait en prendre avec le tesson et le conservateur du musée du Caire et le loger et l'installer à Paris pour les 4 mois que durait l'exposition, ce qui était tout à fait impossible à assumer par le mage. Mais en tout cas, nous avons, dans la première salle d'introduction, nous avons placé un feuilletage, on appelle ça un feuilletage. D'accord. Et nous avons fait l'historique, en gros, de toutes les figures de Moïse, de l'Antiquité, durant l'Antiquité donc juive et chrétienne, puisque Antiquité juive il y a et image juive il y a, jusqu'au Moyen-Âge. Et là, je suis très contente d'avoir fait venir des manuscrits absolument somptueux, impossibles à voir pour le public en général, voire pour les chercheurs. Ce sont des manuscrits de la réserve qu'on a beaucoup de difficultés à faire sortir. Des manuscrits médiévaux qui vous montrent déjà comment au Moyen-Âge, le traitement de Moïse relève déjà d'un traitement fondamental de la polémique judéo-chrétienne, c'est-à-dire la lutte pour l'élection. Qui est le peuple élu? Est-ce que c'est encore les Juifs ou est-ce que ce sont maintenant les chrétiens?
Alors justement, vous parlez à propos des représentations de Moïse dans l'imagerie chrétienne et juive d'ailleurs, d'iconographie sélective. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de cette iconographie sélective, de cette
choix? C'est-à-dire qu'en fait, très rapidement, et d'ailleurs dans la peinture paléochrétienne, on se rend compte, paléochrétienne, c'est-à-dire en fait des 4e, 5e siècle jusqu'au 7e siècle,
les disons,
même 6e
quoi.
Siècle, les premiers chrétiens. Et une partie de cette enluminure, d'ailleurs, de cette décoration, iconographie, se place à un moment où même le christianisme n'est pas encore religion d'État. Hein, c'est vraiment les balbutiements. Eh bien, on s'aperçoit d'abord que cette iconographie est puisée complètement au répertoire juif, forcément, puisqu'il s'agit de la Bible hébraïque tout de même. Mais on s'aperçoit aussi que les chrétiens vont mettre en scène de manière privilégiée les scènes où Moïse apparaît comme un précurseur du Christ, d'une part, c'est-à-dire dispensateur d'eau et faiseur de miracles, alors évidemment le frappement du rocher, etc., mais aussi les scènes qui, d'emblée, montrent les Juifs comme refusant le Sauveur, conspuant le Sauveur qui venait les libérer. C'est-à-dire,
le Sauveur en la personne de Moïse. Là,
en la personne de Moïse, c'est-à-dire l'adoration du veau d'or, bien évidemment.
Sûr.
Et les mêmes épisodes, ceux de la manne et ceux de l'eau, puisqu'il réclame,
il râle.
Moïse est un héros, finalement, qu'on ne craignait pas tant que ça, la preuve en est. Hein.
Contesté.
Contesté, absolument. On contestait son autorité. Et c'est ce que les chrétiens vont mettre en avant pour justement signaler le parallélisme et la même expérience vécue par Moïse et par Christ, qui venait sauver son peuple, les Juifs, évidemment, puisque il venait sauver les Juifs en priorité et le reste de l'humanité à leur suite, évidemment. Et comment Moïse a été rejeté par les Juifs, comme Christ a été rejeté par les Juifs, et donc signalant par là et mettant l'accent par là sur la perfidie juive. Et c'est ce qui fera vraiment le creuset de toute l'histoire des relations entre Juifs et chrétiens, jusqu'au XXe siècle, il faut bien le dire.
Et alors les Juifs, à leur tour, comment eux, s'inspirant, c'est ce que vous expliquez dans votre article, votre contribution d'ailleurs, j'en profite pour en dire un mot
au catalogue
ouais, parce qu'il est vraiment magnifique, très très riche. Vous avez signé donc l'article qui s'appelle « La représentation de Moïse dans les traditions juives et chrétiennes, l'héritage antique et médiéval ». Je vous invite les auditeurs à se reporter à votre contribution, parce que ce que vous expliquez, c'est que les sources chrétiennes vont servir, les représentations chrétiennes vont servir aussi de modèle aux sources juives.
Alors, c'est-à-dire que les Juifs vont finalement, au bout d'un moment, au XIIIe siècle, je suis obligée de faire l'impasse, il faudrait venir à mon cours sur l'histoire de l'iconographie biblique.
Oui, bien sûr.
On va faire une impasse, mais disons que les Juifs, quand l'iconographie l'iconographie biblique juive renaît au contact de l'iconographie chrétienne au XIIIe siècle.
Oui, vous dites qu'il y a une éclipse totale pendant un millénaire.
En vérité, on ne sait pas si c'est une absence d'image ou si c'est une disparition d'image. Moi, j'opte pour la solution éclipse parce que...
Volontaire, quoi.
Non, pas du tout. Je pense que c'est le contraire. Excusez-moi, disparition. D'accord. Je pense que les images juives ont existé, mais soit qu'elles étaient véhiculées dans des textes qui n'étaient pas écrits en hébreu et qu'on n'a pas identifié comme juives immédiatement.
D'accord.
Soit que les manuscrits ont existé et avec les pérégrinations juives et les aléas de l'histoire ont disparu dans le courant de l'histoire, mais les images ont fortement influencé les manuscrits latins, puisqu'on voit jusqu'au Moyen-Âge une iconographie biblique de l'Ancien Testament, pour employer la langue actuelle, entièrement nourrie par le Midrash, les sources rabbiniques. Donc ces images-là, elles viennent d'un contexte juif.
D'accord.
Que les peintres chrétiens qui les copiaient à ce moment-là le sachent ou pas.
Bien sûr.
Mais quand elles renaissent en milieu juif au XIIIe siècle, grâce à la laïcisation du métier d'enlumineur, qui était confiné au couvent jusque-là, et c'est le développement des universités qui provoque tout ça, donc la modernité médiévale, en quelque sorte, on parle du Moyen-Âge comme une période obscurantiste, mais pas du
tout.
C'est vrai. Eh bien, à ce moment-là, les juifs vont repiocher au répertoire populaire chrétien, bien sûr, en y enlevant tout ce qui choquait le judaïsme. Par exemple, eh bien, les images du don de la Torah au Sinaï sont très très populaires pour les chrétiens, puisque ce sont celles qui marquent la nouvelle élection, puisque évidemment les chrétiens vont représenter la première montée au
Sinaï,
et bien sûr, et le brisement des tables, qui était le symbole de la chute de la synagogue. Les juifs vont commencer à peindre, alors ça deviendra aussi leur
une
motif.
Une concurrence, en fait.
C'est une polémique par image interposée. Plus qu'une concurrence, une polémique par image interposée. C'est une réponse, en quelque sorte. Eh bien, les juifs, eux, vont peindre Moïse au mont Sinaï d'une manière extrêmement grandiloquente, avec tous les juifs rassemblés au pied du Sinaï, pieusement en position de prière, les mains jointes devant eux, quitte à emprunter les positions de prière chrétienne. Parfois, on les voit à genoux, les mains jointes devant eux, etc. Mais l'idée, c'était de marquer, au contraire, leur piété, leur acceptation de la loi, et donc la permanence de leur élection.
Et dans un contexte aussi, on va dire, politique pour les juifs de persécution également, qui explique peut-être aussi cette revalorisation, enfin en tout cas du rôle de Moïse.
C'est-à-dire qu'en fait, les juifs vont éviter de mettre en image, bien évidemment, tout ce que les chrétiens adorent, c'est-à-dire les scènes où ils ont rejeté Moïse. Ils vont bien sûr éviter l'adoration du veau d'or, évidemment, mais ils vont aussi rejeter le don de la manne, parce que ça rappelle un peu trop le charisme dans le monde chrétien. Le frappement du rocher, on a un peu moins quand même, parce que c'est quand même le symbole du baptême. Il y a des scènes qui sont, disons, privilégiées par le répertoire juif, et d'autres qui sont privilégiées par le répertoire chrétien, parce qu'elles servent des enjeux idéologiques.
Est-ce que ma question, c'est est-ce que Moïse fait figure de libérateur à l'époque? Est-ce que ou c'est trop tôt encore pour le dire?
Alors, en vérité, dans l'Antiquité, oui, il s'impose comme le héros parfait, et le libérateur, et le prince, et le prophète, et le législateur. C'était fondamental dans les sociétés antiques. Puis au Moyen-Âge, on le voit plutôt apparaître comme une figure messianique.
D'accord.
Moïse est la préfigure du Christ pour les chrétiens. Il annonce l'avènement du Christ par ses actes, brisement des tables de la loi, traversée de la mer Rouge, symbole du baptême, la manne, l'Eucharistie. Et non seulement il annonce le Christ, mais il annonce aussi les sacrements de l'Église. Pour les Juifs, là, en revanche, Moïse va devenir lui aussi un précurseur du Messie, celui qui les sortira de l'exil et dans lequel ils se trouvaient. Un exil, quand même, le contexte était plutôt hostile d'une manière générale, pendant 2000 ans d'ailleurs. Mais aussi comme une figure, comment vous dire, de l'élection. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas seulement une figure messianique, mais il est aussi la figure d'un modèle, de prince.
D'accord.
Il est celui qu'on attend, non seulement pour être libéré d'une manière eschatologique, messianique, mais aussi pour être libéré physiquement.
Physiquement, d'accord. Donc il y a quand même déjà une dimension politique.
Pour Moïse, il y a toujours une dimension politique.
D'accord.
Il donne la loi, n'oubliez pas. À la différence d'Abraham, qui découvre, Dieu et qui apporte le monothéisme, Moïse, lui, donne la loi. C'est-à-dire que le concept même de la figure de Moïse...
La constitution, on pourrait dire.
Exactement.
Juif,
voilà, Moïse, en fait, est le formateur du peuple, en quelque sorte. Il est associé à la formation passion du peuple. Donc il est fortement une figure avant toute chose. C'est pour ça d'ailleurs qu'au XVIe siècle, il sera le modèle du prince. Machiavel le présentera comme le modèle du prince. Et il sera, et sa figure, enfin les images de Moïse seront commandées, les peintures de Moïse seront commandées par les grands gouvernants, Richelieu inclus, Colbert, etc.
On le voit dans l'exposition.
Dans l'exposition, absolument, avec des pièces d'ailleurs majeures qui sont très rarement exposées, il faut bien le dire.
Alors, justement, puisqu'on en vient à la figure politique de Moïse, pouvez-vous nous dire un mot de l'approche protestante de l'histoire de Moïse, en fait, comment les protestants vont exalter eux, le rôle libérateur du prophète.
C'est-à-dire que les protestants vont, j'ai envie de mettre replacer les choses dans le contexte, puisque vous savez que le mouvement protestant arrive dans le contexte de l'humanisme, c'est-à-dire le retour aux textes originels. On va remettre l'hébreu en avant pour découvrir la vérité intrinsèque du texte biblique et non plus les traductions parfois fautives ou inexactes de Jérôme et du grec. Et on redécouvre le Moïse juif, j'ai envie de dire. Bon, vous savez que la réforme a un certain nombre de différences avec le christianisme qui la rapproche pas mal du judaïsme, notamment le culte des saints qu'on abroge, les représentations de Dieu qu'on nommait. Hein. Par exemple, vous allez avoir deux tapisseries qui sont exposées aux mages. Une qui est faite pour un protestant et l'autre qui est commanditée pour un chrétien. C'est des deux fois Moïse au buisson ardent.
Fabriquée à Aubusson.
Une à Aubusson.
Une à Aubusson qui est magnifique.
Et une au Gobelin. Et donc deux tapisseries absolument majestueuses, immenses, hein, de taille monumentale. Dans le Moïse au buisson ardent des protestants, Moïse est en position humble devant Dieu, il accroche son serpent et il n'y a pas de représentation de Dieu dans le buisson. Je vous rappelle que le texte hébreu dit c'est Malach Adonai. C'est pas Dieu qui apparaît à Moïse dans le buisson, mais l'ange de Dieu. Mmh. Et donc on ne représente même pas l'ange chez les protestants qui retournent à un iconoclasme monothéiste classique. Et alors que chez les chrétiens, on a un Dieu qui sort du buisson complètement imposant, un espèce de patriarche, etc. Et la figure de Dieu est mise en avant. Donc ça, c'est la différence majeure. Deuxième différence, c'est que les protestants vont se réincarner à travers l'histoire de Moïse dans les Hébreux persécutés par Pharaon, Pharaon étant les chrétiens. Et donc on va avoir un très grand nombre de scènes, notamment de fuite hors d'Égypte, de Pharaon poursuivant les Hébreux, etc. Puisque c'est exactement la mise en scène de leur situation, après évidemment les grands massacres, l'abrogation de l'édit de Nantes, etc. Donc voilà comment les protestants se mettent en scène comme le peuple hébreu. Ce qui va se reproduire ensuite, au moment de la lutte pour les droits civils, eh bien c'est le rabbin Abraham Heschel lui-même qui va comparer les Noirs, le parcours des Noirs à celui des Hébreux contre la tyrannie égyptienne, voire même, il y a un discours, un film qui est projeté, que je vous recommande absolument, qui est un unicum, comme on dit chez nous, vraiment quelque chose d'exceptionnel, où Heschel dit que parfois, on peut même dire que le parcours des Noirs a été encore plus dur que celui des Hébreux dans le désert, et que sans doute il a été plus facile pour les Hébreux de traverser le désert pendant 40 ans que pour un Noir de traverser le campus de l'Université d'Alabama.
Oui, c'est vrai.
Donc c'était une citation assez édifiante, et bien sûr l'image du libérateur et du Messie qui dirigeait son peuple vers la terre promise a été une image merveilleusement privilégiée par les sionistes, évidemment. Puisqu'il était, d'abord, elle était, c'est la figure d'Herzl qui la porte.
Comme nouveau Moïse, en quelque sorte.
Comme nouveau Moïse, bien sûr, qui est représenté comme un nouveau Moïse. Et puis, Herzl qui connaît un destin assez similaire, puisqu'il fera tout pour l'existence d'Israël et promouvoir le sionisme, et lui, ni pénétrera, ni vivra jamais.
Merci, Sonia Fellous. J'invite les auditeurs donc à aller voir avant le 21 février l'exposition Moïse, figure d'un prophète, hommage, également de se procurer le catalogue de l'exposition et pourquoi pas d'assister aux conférences qui se tiennent autour de l'exposition. C'est largement abordé dans les conférences autour de l'exposition et comme vous avez dit aussi la question de la représentation de Moïse dans l'islam.
Il faut réserver.
D'accord, il faut penser donc à réserver. Quant à nous, nous nous retrouvons dimanche prochain, c'était Mémoire Vive. Deux adresses pour nous retrouver, www.radio-rcj.info, www.mémoirevive au pluriel.net.